Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Madame Gertin-Lacroix, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, là, tu me pièges, là, ce matin.
Comment ça?
Tu me pièges, là. Qu'est-ce que tu veux? Retour sur l'émission Si on s'aimait.
Écoute, non, mais c'est pas un piège, Benoît. Dis-toi, t'es pas obligé de l'avoir vu. T'es peut-être un des seuls Québécois parce que c'est le gros succès de l'heure.
Okay.
Là, je t'en parle parce que ce soir, c'est la dernière. Si on s'aimait, juste pour te situer, bon, c'est une émission à TVA qui, en fait, on suit des candidats célibataires qui choisissent un autre candidat célibataire. Les deux passent l'aventure ensemble la majorité du temps pour tout d'abord voir, oui, s'il y a potentiel amoureux. Mais ce qui est intéressant, là, Benoît, dans cette émission-là, en fait, c'est Louise Sigouin, qui est une psychologue, une sexologue extraordinaire. Juste pour te dire, moi, chaque fois que je l'ai en entrevue, ça devrait durer 5 minutes. Ça dure presque 1 heure, puis je finis, j'ai une consultation. OK, la fille est vraiment cool. Donc,
elle, quand ça peut être gratis, hein, on saute là-dessus.
Hey, ben voyons donc de quoi tu parles. Tu parles au travers de ton chapeau, ben, une stridisère.
Non, la promo dit que je fais jamais ça.
Comme si j'étais la grosse profiteuse qui faisait juste des entrevues pour avoir des cadeaux.
Mais non, hey. Juste des thérapies. Je règle tous mes problèmes grâce à ma job.
Elle boucle juste des psychologues chaque semaine.
Jean-Philippe, ça va mieux à soir. J'ai fait 2 entrevues.
J'ai consulté pendant 2 heures aujourd'hui.
M'entends-tu, c'est quoi ton problème, toi, le gros?
Okay, mais tu parles de problème, mais c'est ça, c'est que Louise Sigouin, elle analyse en fait le comportement des candidats. On parle des fameuses, bon, les dualités, dépendants, codépendants. Mais c'est, écoute, t'écoutes ça en couple ou seul, tu en apprends. Donc, on est vraiment pas dans chess bra, j'ai rien contre Occupation Double et les autres téléréalités, mais c'est pas ça du tout. Tu comprends? C'est vraiment de voir un candidat qui apprend à connaître sur lui-même et souvent même des candidats qui se rencontrent assez rapidement, qui n'ont pas de potentiel amoureux, vont continuer l'aventure ensemble. Et là, si exemple, moi, Benoît, je dois travailler sur te dire ce qui me déplaît, mais même si t'es pas mon chum, là, tu fais juste partie de l'aventure avec moi, je dois apprendre à nommer ce qui me déplaît. Donc, c'est vraiment
un processus. Qu'est-ce qui te déplaît, Anaïs? Dis-le, ben, vas-y, là, je t'écoute.
On a combien de temps?
On a 10 minutes, on en a en masse. Vas-y.
Mais non, tu sais bien que je t'aime, arrête-moi ça. À part quand tu me dis que je suis profiteuse en nom.
J'ai pas dit ça. OK, c'est bon. Écoute, bref, c'est correct. Mais c'est une bonne idée.
T'en parles tes mots, c'est rare, ça.
Non, mais c'est une bonne idée. Ben non, en fait, j'avais pas de mauvaise intention. C'est une bonne idée d'aller chercher une thérapie quand on interview quelqu'un. Je peux pas m'en sortir. Je suis
fan. Oh, t'es terrible. OK. Donc okay. Là, Louise Sigouin était extraordinaire. Okay? Oui. Cette femme-là. Donc ça, c'est le concept de si et le titre « Si on s'aimait ». Moi, je le vois pas comme « Si on s'aimait », exemple, toi et moi. C'est plus si chaque humain commençait réellement à s'aimer puis à se donner du temps, on serait beaucoup plus en paix avec soi-même sur son X et nos relations seraient souvent plus faciles parce que il y en a, hein, des couples, on en connaît tous, là, qu'on les voit ensemble en relation puis on se dit tous « Ben lâchez-vous, voyons donc que c'est ça cette relation-là. Donc là, c'est ce qu'on apprend en écoutant Si on s'aimait. Et récemment, au début de l'aventure, en fait, Benoît, on a fait la connaissance de Sébastien. Sébastien a 35 ans, c'est le premier candidat homosexuel et dès le premier épisode, Sébastien a avoué être séropositif indétectable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout d'abord, c'est extrêmement rare à la télévision qu'on voit quelqu'un qui dit comme ça, puis on parle pas dans un documentaire, là, dans une émission.
C'est très courageux
être, bon, j'avoue, être séropositif. Ensuite, indétectable. Tout le monde se pose un peu la question. Donc, dans l'aventure, on a aussi appris que c'est, bon, une personne qui est séropositive, mais qu'on peut réduire la charge virale avec la prise de médicaments. Donc, tu sais, il y avait un côté très pédagogique. Ça a vraiment réussi à faire tomber quelques tabous, je te dirais. Puis quand je te dis que ça a réussi, c'est parce que les médias sociaux, il y a du beau. Il y a du lait, mais je te dirais que la réaction des Québécois, ce que j'ai pu lire sur les médias sociaux à l'égard de Sébastien, c'est tout le monde disait, mais bravo, c'est tellement une marque de force, de confiance, d'accepter d'être aussi vulnérable à la télévision. Et Sébastien a fait la rencontre de Gabriel, un autre évidemment homosexuel, et lui se considère dans le spectre de l'asexualité. OK? Encore là, Benoît, c'est rare qu'on voit ça à la télévision, quelqu'un qui va dire, ben écoutez, moi, j'ai pas nécessairement de désir sexuel. T'sais, la sexualité, on s'entend qu'on est souvent à l'opposé, aux antipodes, on met la sexualité de l'avant. Donc, tu sais, il y a quelque chose de beau dans cette émission-là qui se termine ce soir, de voir comme ça deux homosexuels. Puis des fois, on a tendance à oublier, tu sais, il y a encore énormément de travail à faire, j'en conviens, mais tu sais, si on se transportait tous au Sénégal, là, présentement, il y a des manifestations pour criminaliser l'homosexualité, qui est déjà un délit. On va envoyer des homosexuels en prison pour 5 ou 10 ans. Mm-hmm. On les invite. Il y a des images qui circulent sur le web où on dit qu'on doit brûler et tuer les gays. Ça n'a aucun bon sens. Et récemment, il y a encore une vidéo ce matin qui était virale sur Twitter. C'est un enseignant qui a été frappé. Ça, c'est dimanche, là. Mm-hmm. Qui a été frappé, insulté, puis on a tenté de le déshabiller, Benoît, pour lui couper les testicules pour faire de lui une femme. C'est un peu violent, ouais, OK? Et ouais, énormément violent. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, là, on revient ici, qu'on est capable d'avoir dans notre téléviseur des homosexuels qui parlent justement autant de séropositivité. Tu sais, c'est beau. Donc, je voulais juste le mentionner. Ça fait du bien de voir ça à l'écran, tant la production que les candidats qui ont... En allant là, écoute, on brise vraiment, on ouvre le dialogue, puis ça fait du bien de voir ça à la télévision.
Bon, ça c'est si on s'aimait, est-ce que la série est terminée?
Ben c'est la dernière ce soir, imagine-toi donc, mais évidemment, okay, on peut le réécouter là, à la télévision, mais je trouvais ça beau de voir ça. Puis là, je regardais, tu sais, récemment, il y a la série Murder, je sais pas si tu as écouté, avec Viola Davis, non, où il y a un couple d'homosexuels, puis dans la série, en fait, un des deux homosexuels a le VIH, puis ça fait du bien de voir ça aussi à l'écran. Mais tu sais, sinon, on n'en voit pas beaucoup des bons films sur le sida, sur le VIH, Philadelphia, en 93. Mmh. Excellent film, là, ouais, avec Tom Hanks puis Denzel Washington. Tu pleures de la première seconde à la dernière seconde. Tom Hanks qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur de Dallas Buyers Club. Buyers Club, plutôt, avec Matthew McConaughey, l'Oscar du meilleur acteur. Mais tu sais,
Il y a End of Band Played On, basé sur le livre de Larry Kramer, qui a été un militant très actif de ACT UP New York, là, dès les années 80. Et il y a aussi une mini-série sur Prime qui aborde la question du sida des années 80, puis même Alston, tu sais, je te parlais d'Alston, là, basé sur le couturier, le sida, est très, très présent là-dedans, parce que ça fait partie de l'époque, tu sais, la fin des années 70, début des années 80, ça a été le frein à l'émancipation sexuelle en Occident, ça a été épouvantable. Et il y a plusieurs histoires comme ça, des fois, c'est intégré à une autre histoire, là, mais c'est encore très présent.
Mais au même titre que si on écoute Bohemian Rhapsody, je veux dire, ça va faire partie. On parle évidemment de Freddie Mercury. Donc, tu sais, il y en a quand même. Il y a des films, il y a des livres, il y a des documentaires, mais tu sais, souvent, on les voit pas nécessairement. Tu sais, je trouve qu'on doit chercher encore pour trouver des films qui traitent du sujet. Donc, je trouvais ça beau de voir ça à l'écran comme ça. Tu sais, une émission qui joue à 19h la semaine où les enfants l'écoutent avec les parents. Comme ça, on aborde des sujets qui ne sont pas souvent abordés à la télévision.
Non, bravo, c'est bon ça. Puis il y a une étude dont tu veux nous parler.
Et est-ce que tu connais la cyberchondrie?
Non, c'est quoi?
Ça, c'est quand on va chercher là sur Google là, nos symptômes, là, puis qu'on a tous l'impression qu'on va mourir dans les trois prochaines secondes parce qu'il y a toujours des images beaucoup trop catastrophiques qui apparaissent.
J'ai un cancer.
Puis là, on se fait dire... Mais non, mais ça avoue que c'est toujours des images. On se dit, mon Dieu, je vais pas survivre à ça. Mmh. Et depuis toujours, on se fait dire, va jamais sur un onglet, un moteur de recherche chercher justement qu'est-ce que t'as comme maladie, parce que tu vas te ramasser à l'hôpital d'anxiété tellement que ça semble toujours dramatique. Mais là, coup de théâtre, Benoît, selon une étude de Harvard, hein, quand même, qui vient d'être publiée, on dit que l'autodiagnostic sur Internet est beaucoup moins faux que ce qu'on pourrait penser.
Whoops.
Oh, c'est ça. Oups. Donc, on a demandé quand même à 500 participants, des hommes, des femmes. On leur a donné des symptômes. Et là, évidemment, avec, tu sais, Internet, on ajoute de plus en plus de contenu. Donc, c'est de plus en plus véridique, je te dirais. Là, je dis pas de jamais aller voir un médecin. C'est pas ça. Mais il y a quelques années, à 48 % on pouvait tenter de trouver vraiment la maladie ou le bobo qu'on avait. Et là, ça a augmenté dans les 5-6 dernières années à 54 % en raison du contenu de plus en plus vérifiable sur Internet. Faut passer plus que 12 minutes, par contre. Là, l'étude, c'est un peu intense, mais si tu passes moins de 12 minutes, là, que tu vas chercher deux, trois affaires, là, le petit bouton, ça me pique rougeur, là, il y a des chances que t'aies pas le bon diagnostic. Donc, faut lire, faut faire des bonnes recherches, mais ce serait maintenant pas nécessairement conseillé, mais n'empêche que lorsqu'on cherche sur un moteur de recherche, selon Harvard, toujours, il y a plus de chances de trouver, en fait, ce que l'on a réellement. Puis on a aussi regardé le niveau d'anxiété, parce que là, c'est ça, on stresse des fois. Bien, ça n'a pas changé. Fait que les gens ont toujours aussi peur qu'on va sur Internet, mais il y a des chances d'avoir le meilleur diagnostic.
Mais puis, si tu ajoutes à ça, à cause de la pandémie, il y a eu toute la télémédecine, là, les médecins là, qui faisaient des consultations par Zoom. Tu disais, on peut-tu simplifier des fois la médecine, tu sais, pas pour les choses graves, mais tu sais, pour une infection ou pour un mal, je sais pas, tu sais, des petits boutons comme dont tu parles, il me semble que ça pourrait être simplifié grâce à la technologie.
La technologie, ben, t'as tout à fait raison. Donc, maintenant, on peut y aller, mais pas trop. Puis, passez plus que 12 minutes, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça, hein. Faites pas juste regarder
ici. 12 minutes qui change tout.
Ouais, c'est vrai. Ah, donc, chérie, je suis enceinte. Ah oui, OK, c'est correct. C'est bon. Tu y vas pourquoi, toi?
De quoi j'y vais pourquoi?
Non, mais tu sais, des fois, là, t'es inquiète. Tu vas consulter pourquoi?
Non, j'attends. Je me dis, là, ça va passer. Si après quelques jours, je vois vraiment que ça passe pas, j'y vais, mais je suis vraiment pas, déteste aller attendre chez le médecin, j'appelle pas 811, non. Non, tu sais, moi, j'attends. J'ai été élevé de même, là, on va attendre encore un petit peu, là, puis si jamais.
OK, tu souffres en silence. T'es ce genre de femme-là.
Non, je ne pas en silence. Mais toi, est-ce que tu vas tout de suite chez le médecin? Est-ce que tu consultes?
Tout de suite.
Tu fais partie des gens comme moi qui attendent?
Non, non, moi, tout de suite. Moi, dès que ça dépasse, dès que ça pendouille, j'appelle le médecin.
Moi, tu vois, j'attendrai.
Parfait. Merci, Anaïs. On se reparle demain.
Salut, à demain.
Ciao.